en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Titz, merci de nous accueillir à votre domicile, à Paris. Vous nous accueillez pour une émission en habit vert qui retrace le parcours d'un académicien. En l'occurrence, c'est le vôtre que nous allons évoquer tout au long de cette heure en votre compagnie. Nous allons parler bien sûr de vos travaux en mathématiques. Nous allons bien sûr parler de votre prix Abel que vous avez reçu il y a très peu de temps, prix Abel 2008, que vous allez recevoir le 20 mai à Oslo.
Oui.
Nous allons bien sûr parler de ça. Commençons, si vous le voulez bien, par votre enfance. Vous êtes né en Belgique, en 1930.
Oui.
Donc nous allons brosser, si vous le voulez bien, avec vous, votre climat familial. Votre père était mathématicien.
Oui, mon climat familial était un climat très calme. C'est une famille très calme. Mes parents étaient des gens très intelligents, mais simples. J'ai eu une enfance très agréable.
Une enfance studieuse ?
Oui, comme un enfant normal, sauf que très tôt, je me suis passionné pour les mathématiques. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas dire que c'était studieux, parce que, c'était naturel pour moi de faire des mathématiques. Ce n'était pas studieux, je n'avais pas besoin d'étudier.
Donc, votre père était mathématicien, votre maman était avec vous au foyer ?
Ma mère était professeure de piano. Mais alors, quand elle a eu des enfants, elle n'a plus exercé son métier. Mais je lui dois certainement mon intérêt pour la musique. Mais mes parents jouaient aux quatre mains. À quatre mains, ils jouaient de la musique pour nous au piano. Et...
Je suppose que vous aussi, vous jouez au piano ?
C'est-à-dire que j'ai joué du piano, mais de façon un peu bizarre, disons que je n'ai jamais beaucoup travaillé le piano. Alors j'apprenais les morceaux que j'aimais. Je me souviens notamment la sixième symphonie de Beethoven, que j'adorais, alors que j'ai appris à jouer, si j'ose dire, à quatre mains. J'avais une version à quatre mains et je la jouais. Mais ce n'était pas de l'art, c'était simplement pour me faire plaisir.
Dès le départ, vous avez senti que vous aviez des facilités dans plusieurs domaines, les mathématiques, mais les langues aussi, puisque nous aurons l'occasion d'en reparler, mais vous parlez plusieurs langues.
Je me suis assez tôt intéressé aux langues. J'aime beaucoup parler aussi des langues étrangères. Et alors, au fond, les sujets qui m'ont toujours intéressé, c'est d'abord les mathématiques, la musique et aussi l'histoire. J'ai toujours aimé énormément l'histoire. Je lisais des livres d'histoire. C'est vrai, ma femme me rappelle la géographie. Dans ma famille, on m'appelait le géographe. Et on ne m'a jamais appelé l'historien. Mais enfin, j'aimais beaucoup la géographie, effectivement.
Alors, vous précisez votre femme, c'est vrai que nous devons le dire à nos auditeurs. Donc, nous sommes bien sûr à votre domicile et votre femme vous accompagne au cours de cet enregistrement.
Et elle me fait des signes pour me dire quand elle n'est pas d'accord, quand elle trouve que je devrais ajouter certaines choses.
Vous étiez géographe, pianiste. Je suppose que vous aviez une bibliothèque assez fournie qui faisait que vous alliez vous intéresser à ces livres, et notamment aux livres de mathématiques.
Oui, c'est ça. J'avais déjà la bibliothèque de mon père, qui était déjà très fournie. Si vous promenez dans cet appartement, vous verrez qu'il y a des livres partout, notamment des livres de mathématiques, mais aussi des livres d'histoire.
Jacques Tietz, parmi les documents que l'on trouve sur vous sur Internet, donc, il y a l'article sur le journal La Croix qui évoque votre parcours, et notamment votre enfance. Également sur le site du CNRS, une vidéo. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Vidéo qui a été faite lors de votre départ de l'Institut des hautes études scientifiques. Mais pour revenir à ces documents, on lit qu'à 14 ans, donc très jeune élève et déjà très doué, vous aidez des étudiants qui veulent entrer à Polytechnique. C'est quand même pas commun.
Oui, alors en fait, la situation était celle-ci. À l'époque, j'avais perdu mon père et ma mère était sans ressources. Enfin, pratiquement sans ressources. Et avec mon frère aîné et moi, nous avons essayé de rapporter des moyens financiers. À cette époque, j'étais élève à l'Athénée Ducle et j'avais déjà passé 2 ans. J'ai toujours dans mon enfance sauté des années. Et d'ailleurs, vers cette époque-là, c'est devenu presque une nécessité parce que ma mère n'avait pratiquement plus de ressources. Et si on voulait que je fasse des études, il fallait que je les fasse à vitesse accélérée. Et j'ai eu un professeur à l'Athénée, ce qu'on appelait l'Athénée, dans l'enseignement secondaire, qui était, lui, très impressionné par mes capacités. Et je donnais des leçons particulières à des étudiants de ce professeur, qui étaient des étudiants qui avaient peut-être 4 ou 5 ans de plus que moi. Et à un certain moment, ces étudiants se sont mis à passer les examens d'entrée à ce qu'on appelait en Belgique l'école polytechnique. Et je les ai préparés à ces examens de l'école polytechnique, alors que moi, je n'avais pas du tout l'âge de faire ces examens. À ce moment-là, j'avais 14 ans. Et un jour, un de ces étudiants avait passé un examen et j'ai été voir mon professeur de lycée pour lui demander comment avait réussi mon élève à l'examen d'entrée à l'école polytechnique. Et sa première réaction a été de me prendre par l'oreille et de dire, il m'appelait toujours Petit Jacques. Petit Jacques, mêle-toi de tes oignons. Et alors, il a raconté comment ça s'est passé. Après ça, il s'est dit, enfin, c'est ridicule, je l'insulte, alors que c'est tout à fait normal qu'il se demande comment on réussit ses élèves. Et il s'est dit, en plus, si ses élèves peuvent passer l'examen d'entrée à l'école polytechnique, lui aussi doit pouvoir passer les examens d'entrée à l'école polytechnique. Et alors, il m'a conseillé de passer moi-même ces examens d'entrée à l'école polytechnique. Et c'est comme ça qu'à 14 ans, j'ai passé ces examens d'entrée à l'école polytechnique et que je suis entré à l'université alors à ce moment-là.
Quel était votre rapport avec les autres étudiants, puisque vous aviez un grand décalage d'âge avec les autres ?
Je dois dire que les autres, à la fois dans ma famille, mes frères et sœurs, et les autres étudiants, ont souvent été extrêmement gentils, si vous voulez, avec moi. Ils me regardaient comme un, je ne sais pas s'il faut dire un petit génie, mais en même temps, j'avais le tempérament d'un enfant. Et ces jeunes gens que je fréquentais n'ont pas du tout essayé de profiter de ma jeunesse pour m'entraîner dans des aventures qui ne me convenaient pas. J'ai toujours été très, en quelque sorte, très protégé par les autres, par mes condisciples à l'école et par mes frères et sœurs. Il n'y a jamais eu chez eux le moindre signe de jalousie. Ils étaient fiers de mes réussites. Alors il faut peut-être dire aussi que ma mère a joué dans ce domaine, à la fois mon père et ma mère. Mon père, à partir d'un certain moment, a été un peu inquiet que je fasse trop des choses trop compliquées, etc. Et il avait une tendance à ne pas me ne pas me montrer ses livres. Et j'allais prendre les livres. Il est écrit ici dans le texte que je prenais les livres en cachette. C'est un peu exagéré. Je ne prenais pas les livres en cachette. Mais mes parents ne m'encourageaient pas. Je dois dire que dès le début, mon père m'a enseigné des rudiments de mathématiques. C'est évidemment lui qui m'a appris à compter, à la règle de trois, des choses comme ça. Mais alors, très tôt aussi, il m'a appris des choses d'un niveau plus élevé. Et moi, ça me passionnait. Par exemple, je me souviens très bien, il m'expliquait comment on pouvait résoudre des équations sans qu'on ait des données. Disons, pour moi, l'idée naturelle à cet âge, pour résoudre une équation à plusieurs inconnues, c'est d'essayer de connaître une des inconnues et en déduire la seconde, et puis en déduire la troisième, etc. Et un beau jour, mon père m'a montré comment, sans connaître aucune donnée spéciale, on parvenait à trouver toutes les données par des procédés de résolution d'équation. Pour moi, c'était vraiment... Je me souviens que c'était de la sorcellerie. Et ça a été une de mes premières, si je peux dire, émotions mathématiques, ce genre de choses.
Canal Académie.
Jacques Tietz, avant de parler plus en détail de vos travaux, revenons quelques instants sur votre maman. Lors de cette pause, vous insistiez sur le fait qu'elle n'avait pas de fierté particulière pour son fils.
Oui, c'est exactement ça. Et je me souviens que dans notre quartier où j'habitais, il y avait une dame, une voisine qui avait dit à ma mère: moi, si j'avais un fils comme ça, je ne regarderais plus les voisins. Et vraiment, c'était tellement éloigné de son caractère. Ma mère n'avait aucune fierté particulière. Évidemment, d'une certaine façon, pour elle, c'était important que j'aie fait ces études rapides. Pas pour des questions de prestige, disons des questions mercantiles. Mais pour elle... Ça voulait dire que je pourrais terminer certainement mes études. J'étais suffisamment en avance pour que, malgré le manque de moyens financiers que nous avions, je pouvais terminer mes études très rapidement. Et c'est comme ça que j'ai terminé mes études universitaires à 18 ans. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait mon doctorat à 19 ans. À partir de 18 ans, j'étais boursier du FNRS, c'est-à-dire l'équivalent belge du CNRS. Et pendant 8 ans, j'ai vécu uniquement de bourses de recherche au FNRS. Ce qui m'a permis de vivre, de chercher. À ce moment-là, j'étais évidemment un chercheur.
Donc, bien sûr, très jeune. Un autre détail que vous nous aviez indiqué lors de cette pause, c'est le fait, pour accentuer le côté original de votre parcours, vous avez aidé votre sœur qui faisait des études de chimie, votre sœur qui était âgée d'un an de plus que vous, il me semble.
Cette sœur-là avait 3 ans de plus que moi, ou 4 ans.
Alors ça accentue encore le côté original, elle faisait des études de chimie et vous, vous êtes orienté vers la chimie pour pouvoir l'aider.
Oh, j'ai appris un peu de, ou beaucoup de chimie organique, ça m'amusait pour aider ma sœur. J'en connais encore pas mal d'ailleurs de chimie organique. Je sais encore ce qu'est un aldéhyde, etc.
Jacques Titz, à 20 ans, vous publiez votre thèse, enfin en tout cas vous rédigez votre thèse. Quel était le titre de celle-ci ?
Alors le titre de ma thèse de doctorat, c'était, il faut que je la retrouve, « Généralisation des groupes projectifs basés sur leurs propriétés de transitivité ». Mais je dois signaler donc qu'après cela, 2 ans après, j'ai passé une thèse qu'on appelait en Belgique la thèse d'agrégation, qui ressemble à l'habilitation en France. Et ma thèse d'agrégation, donc, a été publiée en 1955. Et le titre, c'est « Sur certaines classes d'espèces homogènes de groupes de Lie ». Alors, cette thèse préfigure une certaine quantité de mes recherches ultérieures. Par exemple, on m'attribue, avec raison, l'introduction d'une notion qui est la notion d'immeuble. Et l'origine de cette notion se trouve dans ma thèse d'agrégation.
C'est une publication qui va rencontrer déjà un grand succès.
Celle-là aussi pratiquement justifié ou tout au moins provoqué les invitations que j'ai eues alors par la suite à l'étranger. C'est le travail qui a fait en premier lieu ma réputation, disons, mondiale.
Là, ce sont les publications. Je suppose que vous êtes parti en post-doc. Après, comment ça s'est passé, les années suivantes d'études ?
Ben, j'ai continué à être boursier du FNRS, mais alors j'ai été invité, par exemple, à l'Institut des hautes études de Princeton, Institute for Advanced Study, où j'ai passé 1 an, et alors j'ai été à divers endroits, mais enfin, ça, je dois aussi encore citer que mon premier voyage à l'étranger, ce qui était l'étranger pour moi, c'est à Zurich. C'est une invitation à un petit colloque qui avait lieu à Paris, enfin un grand colloque qui avait lieu à Paris, et à ce colloque, j'ai rencontré un mathématicien allemand très célèbre qui s'appelait Artin et qui a été très impressionné par les exposés que j'ai faits, et ça m'a valu une invitation à l'Institute for Advanced Study de Princeton où j'ai été alors pendant 1 an. Quand je suis allé à Princeton, donc pour la première fois, je n'avais pas encore, si je peux dire, les grands résultats de ma thèse d'agrégation. C'est immédiatement après que j'ai fait cette thèse d'agrégation qui a fait ma réputation, disons.
Parmi les universités où vous séjournez, les universités étrangères, donc bien sûr, vous avez cité Princeton, mais il y a également des universités à Tokyo et puis à Kyoto aussi. Et là, on revient aux langues que vous pratiquez.
Oui, mais vous savez, quand je suis allé à... D'abord, il faut quand même préciser ceci. Dans mon curriculum vitae, il y a plusieurs voyages qui sont mentionnés, mais c'est de nature assez différente. Par exemple, vous venez de citer Kyoto, Tokyo, et encore un autre. ce sont en fait des petits voyages au Japon. Dans mon développement, ce qui a été le plus important, ça a été juste après la fin de mes études de doctorat, ça a été trois séjours que j'ai faits, trois années consécutives, pas tout à fait consécutives, d'abord deux consécutives et puis une un peu plus tard à Zurich. Zurich, à l'école polytechnique de Zurich, où j'ai rencontré un grand mathématicien qui s'appelait Heinz Hopf. Il ne m'a pas appris tellement de mathématiques, mais il m'a appris une façon d'être. Ce professeur Hopf était un homme absolument charmant et un très grand mathématicien.
Venons-en à vos travaux quand même. Sur le site de l'Académie des sciences, il y a une notice biographique pour chaque académicien. Et donc sur la vôtre, on peut lire « L'œuvre scientifique de Jacques Tietz porte principalement sur la théorie des groupes et la géométrie. » Et là, sont répertoriés 14 groupes. Donc il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a deux ou trois dont vous voudriez nous parler plus particulièrement ? Vous parliez des immeubles il y a peu de temps encore. Et peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus.
Voilà, immeubles et BNP, classification des immeubles. C'est un de mes travaux les plus importants. Mais moi, j'ai une certaine tendresse, par exemple, pour le second titre de la liste, alors que c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais rien publié. Ça s'appelle le Plante Cremona. Et c'est un sujet assez original. Il y a aussi le problème de Helmholtz-Lie, qui a joué un grand rôle dans ma thèse d'agrégation. Ici, les questions des groupes de Lie exceptionnels. Interprétation géométrique des groupes de Lie exceptionnels. Alors, les groupes de Lie exceptionnels, ce sont vraiment les objets qui m'ont occupé en quelque sorte toute ma vie et leur interprétation géométrique. J'ai trouvé à cette époque-là des procédés en quelque sorte mécaniques d'interprétation géométrique de certains groupes et que j'ai appliqués à ces groupes exceptionnels. Ça, c'est en quelque sorte un de mes travaux les plus importants. Peu après, j'ai travaillé avec Armand Borel à la classification des groupes algébriques simple sur un corps quelconque. Alors ça, c'est un de mes travaux, je dirais, les plus connus. Ce travail avec Borel porte le nom familier de Le Borel-Tietz. Et quand les gens parlent du Borel-Tietz, on sait de quoi il s'agit. Et ces résultats ont joué un grand rôle dans le développement de la théorie des groupes et des mathématiques. Généralement. Un peu plus tard, j'ai travaillé avec un autre ami et collègue, c'est François Bruat. Alors là aussi, ça a donné lieu à un travail qui est très connu et très, très cité, qu'on appelle le Bruat-Tietz. Le Bruat-Tietz, c'est un travail de 300 pages qui est vraiment, je crois, assez important, qui est...
Lorsque l'on lit les articles qui vous sont consacrés, on lit que vous êtes l'un des grands mathématiciens les plus influents du XXe siècle. Alors, ça vous fait sourire? Ça vous fait plaisir?
Oh, ça me fait plaisir qu'on dise ça, mais je crois que c'est un peu exagéré. Je connais beaucoup de... peut-être pas beaucoup, mais un certain nombre de mathématiciens dont j'ai envie de dire qu'ils sont au moins aussi influents que moi, peut-être plus. Ce n'est pas du tout envie de me mettre sur le même plan, par exemple, que Jean-Pierre Serre, qui pour moi est un modèle.
Justement, vous parlez de Jean-Pierre Serre. La transition pour moi est toute trouvée pour parler du Collège de France. Jean-Pierre Serre est au Collège de France. Vous y êtes honoraire. Vous étiez professeur pendant 25 ans, voire un peu plus, parce qu'il me semble que vous êtes entré en 1973 jusqu'en 2000.
Je connaissais C'est avant ça, je le connais depuis très longtemps.
Votre femme qui est à côté de vous indique que lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois avec votre épouse à Rome, vous avez parlé de Jean-Pierre Serre.
Oui, c'est... pour moi c'était le grand Serre, c'était un modèle, et ça allait rester d'ailleurs.
Vous êtes de la même génération tous les deux ?
Je suis un peu plus jeune que lui, mais on est... en gros nous sommes de la même génération, surtout étant donné que j'ai fait des études très jeunes. C'est une génération de mathématiciens qui a eu beaucoup de succès. C'est lié aussi à si je peux dire, l'épopée de Bourbaki. Pour ma part, je n'ai jamais été membre de Bourbaki, mais j'ai été toujours, depuis le début, très proche de Bourbaki. J'ai été très influencé par Bourbaki. Jean-Pierre Serre était un des membres principaux de Bourbaki et mon style mathématique a été très influencé par Bourbaki.
En 1973, vous entrez au Collège de France comme associé, il me semble.
Oui, ça c'est pour une raison un peu particulière. Jean-Pierre Serre m'a suggéré d'être candidat au Collège de France. Mais il y avait une difficulté, à l'époque j'étais belge.
C'était une difficulté ?
C'était une difficulté parce que... au Collège de France, à cette époque-là, on ne pouvait être titularisé que si on était français. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que le collège m'a nommé comme associé en attendant que je me fasse naturaliser français. Et ça a duré un an. Et alors, au bout d'un an, j'ai pu être titularisé au Collège de France.
C'est la raison pour laquelle vous avez pris la nationalité française ?
C'est la raison pour laquelle nous deux avons pris la nature. En quelque sorte, j'ai envie de dire que culturellement ou mathématiquement, depuis très longtemps, je suis plutôt français que belge. C'est en France que j'ai eu les premiers contacts mathématiques qui m'ont le plus impressionné. Je me suis vraiment assimilé à l'école française. Je venais de Belgique. En Belgique, j'ai de très bons amis. Mais l'atmosphère scientifique en Belgique était assez endormie. Et je n'avais pas d'hésitation à quitter cette atmosphère. D'ailleurs, entre-temps, je ne suis pas tout de suite venu en Belgique. J'ai été professeur en Allemagne, d'ailleurs étant toujours belge à ce moment-là. Et l'atmosphère mathématique en Allemagne était beaucoup plus stimulante que l'atmosphère en Belgique. En Belgique, j'ai été nommé à un certain moment pour donner un certain cours, qui n'était d'ailleurs pas un grand cours de mathématiques, qui était un cours de mathématiques pour les étudiants en médecine. Et j'avais ce poste, et je restais dans ce poste-là. Je n'avais aucun avancement, bien sûr un avancement financier, oui, mais ça ne me donnait pas les contacts scientifiques que je pouvais espérer. Et alors ces contacts scientifiques, je les ai eus dès le début à Paris, et puis en Allemagne, où j'ai été nommé professeur, et là je faisais des cours. En Allemagne, le système était vraiment, si je peux dire, le paradis. Chaque année, on faisait un cours sur un sujet, chaque fois différent. Ce qui fait que, en quelques années, j'ai appris une quantité énorme de mathématiques par les cours que je donnais. C'était chaque fois un cours différent. Et j'ai appris énormément de choses à ce moment-là. Et alors après, je suis venu à Paris, au Collège de France, où, si je peux dire, cette atmosphère a continué à jouer. Au Collège de France aussi, chaque année, je faisais un cours très différent et à un autre niveau.
On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, Jacques Tietz. Et puis, dans la troisième partie, on parlera plus en détail du Collège de France et puis également de l'Institut des hautes études scientifiques où vous y avez passé 25 ans. Et puis, bien sûr, on parlera du prix Abel.
Canal Académie.
Suite de notre reportage en habit vert en compagnie de Jacques Tietz. Nous parlons bien sûr de votre carrière, Jacques Tietz. Et nous sommes arrivés en 1973, où vous êtes associé au Collège de France, et 1975, où vous êtes titularisé toujours au Collège de France. Vous retrouvez à cette époque Jean-Pierre Serres.
Si je peux dire, je ne l'ai jamais quitté, parce que je le rencontrais entre-temps, je le rencontrais régulièrement, mais à ce moment-là, nous devenions collègues, disons.
Sur le site du CNRS, il y a une vidéo, nous en parlions rapidement lors des 5-10 premières 10 minutes de cet enregistrement, une vidéo qui vous a été consacrée à l'occasion du moment où vous êtes parti de l'Institut des hautes études scientifiques, où l'on retrouve Jean-Pierre Serres, mais également Étienne Gys et Pierre Cartier, qui parlait de vous en tant que professeur au Collège de France. Alors, quelles étaient les relations avec ces trois personnes ?
Alors, Cartier est un, j'ai envie de dire, un vieil ami. Je le connais depuis toujours et j'aime toujours entendre ses conférences. Il est... Mais enfin, je n'ai pas de lien particulièrement étroit avec lui. Étienne Gys, j'ai appris à le connaître au moment où j'ai quitté justement les publications de l'IHES. Il m'a succédé comme rédacteur en chef et j'ai appris à le connaître à ce moment-là. J'ai beaucoup d'estime pour lui.
Et donc Jean-Pierre Serres, c'est vrai que nous en avons déjà beaucoup parlé. L'Institut des hautes études scientifiques, parlons-en. Il semble que vous y ayez passé beaucoup de temps, que vous êtes beaucoup investi dans le cadre des publications. Mais avant de diriger les publications, vous aviez, je suppose, d'autres fonctions au sein de cet institut.
Pas vraiment d'autres fonctions, mais je dois dire que depuis très longtemps, avant même que je ne sois en France, même plusieurs années avant que je ne sois en France, je suis venu à l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, pratiquement tous les ans pendant 2 ou 3 mois. L'IHES me donnait, disons, une liberté de travail. C'est une institution très remarquable, un institut de recherche où viennent en visite des jeunes chercheurs d'un peu partout. Et j'ai été un de ces jeunes chercheurs, j'ai même été le second visiteur de l'IHES, de son histoire. Et je venais ici donc pour faire de la recherche. C'est peut-être l'occasion de citer un autre mathématicien qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Il s'appelle Pierre Deligne. D'une certaine façon, je crois que parfois il se présente comme mon élève, mais c'est trop d'honneur, c'est un mathématicien tout à fait exceptionnel. Et à partir de l'époque dont nous parlons, lui-même à ce moment-là était professeur à l'IHES. Et c'était une chose très agréable. Pierre Deligne, j'ai envie de dire, il connaissait tout. Il connaissait tout. Et quand moi j'étais chercheur, je cherchais quelque chose. Et quand il y avait des problèmes qui se posaient, je traversais le couloir et j'allais parler à Deligne. Et Deligne me répondait tout de suite. J'ai appris énormément de Deligne dans les conversations.
C'est le professeur qui apprend de son élève.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que vous retenez de ces 25 années passées conjointement au Collège de France ainsi qu'à l'Institut des hautes études scientifiques ?
Je ne peux pas vraiment les mettre sur le même plan. C'est vraiment à partir du moment où j'étais au Collège de France, le Collège de France était ma vie, disons. C'était au Collège de France que je faisais tout ce que je faisais, mais j'allais régulièrement, 1 ou 2 mois par an, à l'IHES. J'ai vécu à Bures-sur-Yvette la vie mathématique internationale, peut-être encore plus qu'au Collège de France. À Bures, il y avait beaucoup de mouvements. Au Collège de France, il n'y avait que 4 chaires de mathématiques. Et d'une certaine façon, je peux dire que je n'apprenais pas particulièrement beaucoup de choses de mes collègues mathématiciens du Collège de France, de Jean-Pierre Serres certainement, mais enfin, c'était un autre genre de relation. Au Collège de France, je n'assistais pas à des cours, j'assistais à mes propres cours. Et donc, le rôle du Collège de France dans ma formation a été d'être obligé de faire des cours de mathématiques à un niveau très élevé, et ça m'a apporté énormément. Mais à l'IHES, je rencontrais des mathématiciens venant un petit peu du monde entier. Et là, j'allais assister à des conférences plutôt que je ne donnais les conférences.
Ce qui permet aussi pour vous de garder un pied dans la recherche, de la qualité de la recherche.
C'est ça.
Venons-en à cette époque. En 2008, vous avez appris que vous alliez le recevoir, parce que donc c'est le 20 mai que vous allez recevoir officiellement, le prix Abel, qui est l'équivalent d'un prix Nobel. Alors, il n'y a pas de prix Nobel pour les mathématiques. Alors, depuis 2003, existe le prix Abel. Alors, il paraît que vous avez déclaré que, justement, vous ne pensiez plus l'avoir. Donc, finalement, c'est...
C'est pas tout à fait comme ça que je ne pensais plus l'avoir. Je n'ai jamais pensé l'avoir. Quand j'ai appris qu'il m'était décerné, je suis vraiment tombé de haut. Le jour où j'ai appris que j'avais ce prix Abel, je n'avais pas la moindre idée que ça pouvait me tomber dessus.
C'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
C'est une bonne nouvelle, oui.
Vous allez la recevoir conjointement avec John Thompson. Alors, est-ce que vous le connaissez, John Thompson ?
Je le connais très bien, je le connais depuis très longtemps. J'avais fait sa connaissance à Chicago en 1963. Et alors, depuis lors, je l'ai rencontré très souvent, beaucoup d'endroits. Mais en 1963, j'ai été à Chicago en même temps que lui pendant plusieurs semaines. Et Thompson, à cette époque, je le connaissais de nom même avant de l'avoir rencontré. J'étais aussi extrêmement admiratif de Thompson. Pour moi, c'était un génie mathématique. Ce l'est encore, d'ailleurs. Je ne peux pas dire que j'ai eu vraiment... travailler avec lui, mais enfin, nous travaillons dans des domaines très, très voisins.
Vous travaillez toujours ?
Ah, bien sûr.
Alors, quels sont vos travaux de recherche actuellement ?
En réalité, pour le moment, ce qui m'occupe le plus, c'est... au Collège de France, on publie toujours chaque année un résumé des cours qu'on a fait. Et alors, sur le conseil et l'insistance de Jean-Pierre Serre, je vais publier un recueil de tous mes résumés de cours. Et la chose à laquelle je travaille maintenant, c'est que je relis ces résumés de cours, je les corrige, et alors j'ajoute des annotations, parce que ces cours datent de nombreuses années, et il y a des cas où j'ai des choses à rajouter maintenant, des choses que je ne savais pas à l'époque, et je travaille... à la rédaction de notes pour ces résumés de cours.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Titz, de nous avoir reçus chez vous à Paris pour cet enregistrement donc en habit vert. Je remercie également votre épouse qui vous a accompagné au cours de cet enregistrement, qui vous a soufflé quelques dates et rappelé quelques anecdotes. Donc, merci à tous les deux. Et puis, eh bien, peut-être à une prochaine fois pour un prochain enregistrement. Merci beaucoup.